VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a échappé une nouvelle fois à une motion de censure, cette fois au sein de la direction de son parti, l'ANC, ce week-end. C'était lors d'une réunion du comité exécutif national de l'ANC à Pretoria. Le président Zuma reste sur la sellette, surtout à cause du remaniement ministériel controversé de la fin mars. Les explications de David Zoumenou Dossou de l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria au micro de Timothée Donangmaï.
Je pense que cette motion de censure, la deuxième déjà en 6 mois, intervient dans un contexte un peu difficile, aussi bien pour l'ANC que pour l'Afrique du Sud, qui a vu un peu son statut relégué au statut d'État en défaillance. Et également, au moment où même les partenaires traditionnels de l'ANC expriment des mécontentements par rapport à la situation politique du pays, à la façon dont l'ANC répond à certains problèmes, à certaines critiques dirigées contre le président. Mais c'était sans espérer, en tout cas, que cette motion de censure allait prospérer au sein de l'ANC, car cela pourrait avoir de graves conséquences, surtout qu'on est à 6 mois de la conférence élective de l'ANC où on connaîtra le prochain dirigeant du parti et indirectement le prochain président de l'Afrique du Sud.
David Zoumenou Dossou de l'Institut d'études de la sécurité de Pretoria en Afrique du Sud. Politique en RDC maintenant, lancement dimanche à Paris par des leaders politiques congolais d'un directoire national pour une transition sans Kabila. Le président Joseph Kabila, en théorie, ne peut pas se succéder à lui-même, mais l'accord du 31 décembre 2016, censé ouvrir la voie aux élections, continue de connaître des difficultés dans sa mise en œuvre. Écoutons Annie Mishimba-Makinu, vice-présidente du directoire national pour une transition sans Kabila.
Notre plan, c'est déjà de réunir, de sensibiliser les Congolais à venir nous rejoindre dans ce directoire pour que nous puissions mettre en place des idées et mettre des stratégies et évincer Kabila du pouvoir, parce que de toutes les façons, il est maintenant illégitime, illégal. C'est un ex-président, ce n'est plus un président pour nous en fait. Donc nous voulons emmener le Congolais à la conscientisation, à propulser, à booster le Congolais afin qu'il comprenne les enjeux qu'il y a derrière. Il faut qu'il redevienne souverain, il faut qu'il devienne décideur de son avenir. Et nous savons qu'ensemble, que la force, la synergie, la dynamique d'un peuple, c'est une arme en fait. Donc nous, on a l'arme, notre arme c'est le peuple. Et le Congolais doit s'approprier vraiment la Constitution, vraiment s'approprier cet article 64 qui dit qu'on ne peut pas se laisser gouverner de force.
Annie Mishimba-Makinu, vice-présidente du directoire national pour une transition sans Kabila, jointe à Paris. On reste en RDC, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs est en cours à Kinshasa depuis dimanche. La première semaine d'opération ne concerne que 4 des 24 communes que compte la capitale de la RDC. Mais Corneille Nanga, président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se veut optimiste.
Nous venons de lancer l'opération à Kinshasa et nous venons en fait de commencer dans 4 communes. La commune de la Gombe, la commune de Lingwala, la commune de Kinshasa et la commune de Baroum. À partir de la semaine prochaine, donc le vendredi, nous allons nous étendre sur les restes des communes et nous allons donc atteindre la vitesse maximum. C'est un grand jour. Plus ou moins 4 500 000 électeurs attendus à Kinshasa, mais les Kinois me disent que non, 4 millions c'est peu. La balle est dans notre camp, nous Kinois. Enrôlons-nous massivement, avec discipline, sans beaucoup d'hésitation. Enrôlons-nous massivement pour que nous atteignions 5 millions, 6 millions, pourquoi pas 8 millions.
Corneille Nanga, président de la CENI, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Niger, 2 policiers et 1 civil tués samedi soir dans une attaque contre un poste de police non loin de la frontière Nigero-Burkinabé. Le ministère nigérien de l'Intérieur parle de terrorisme. Jean-Roger Bion,
L'attaque menée par des hommes armés a visé samedi tard dans la soirée un poste de police de la région de Tillabéri, situé à 10 km de la frontière avec le Burkina Faso. Le bureau du commissaire de police où étaient stockées des armes a été incendié et plusieurs armes emportées par les assaillants qui ont également endommagé 5 véhicules, dont un de la police et 3 appartenant à des policiers, selon les autorités. Les assaillants ont pris la fuite vers le Mali voisin, annonce l'AFP, qui cite une source sécuritaire. Écumés par des bandes armées terroristes, les régions nigériennes de Tillabéri et Tawa, proches du Mali et du Burkina, sont considérées comme très dangereuses. Niamey a d'ailleurs décrété depuis le 3 mars l'état d'urgence dans la région. Une dizaine de marchés ruraux ont été fermés. La circulation de voitures et de motos dans plusieurs zones de l'Ouest ont été interdites. Par ailleurs, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer une force tripartite sur leurs frontières communes, en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels en tout genre. Mais elle n'a pas encore été mise sur pied.
Au Burkina Faso, les mouvements de la société civile se mobilisent pour dénoncer la gouvernance du régime en place. La coalition Bouribana veut convaincre le gouvernement du président Roch-Marc Christian Kabore de prendre une trajectoire qui tienne compte, je cite, des aspirations des populations. Safietou Lopez Zongo est la porte-parole de cette coalition.
Nos dirigeants n'ont plus en tête l'esprit de l'insurrection populaire qui devrait les guider vers la mise en œuvre de bonnes politiques publiques. Nous rappelons à nos dirigeants que notre peuple s'est battu pour plus d'équité, de liberté et de justice sociale. Raison pour laquelle nous interpellons le président du Faso afin qu'il prenne toutes ses responsabilités face à la situation du pays. Notre peuple a besoin de réformes courageuses qui peuvent améliorer ses conditions de vie actuelles.
Safietou Lopez Zongo, porte-parole de la coalition Bouribana au Burkina Faso. Retour en RDC maintenant. Le paludisme a fait dans la province du Nord Kivu 900 morts, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, rien que pour le premier trimestre de cette année. Le gouvernement congolais vient d'élaborer un plan stratégique pour réduire le paludisme par le biais d'une campagne de sensibilisation. Le point avec Charlie Kasirika, notre correspondant à Goma, chef-lieu du Nord Kivu.
La médecine interne de l'hôpital provincial, comme dans différents centres de santé du Nord Kivu, les nouveaux cas ne cessent d'arriver. Sandra, 25 ans, revient de la consultation. Elle souffre du paludisme. Selon les résultats du labo qui vient de lui communiquer son médecin, elle avoue ne pas être fan de la moustiquaire.
Oui, je fais des labos. Il m'a dit vraiment que je suis malade. C'est très grave, vraiment. Peut-être moi, je vais attraper parce que je ne dors pas sur le moustiquaire. Je n'aime pas vraiment le moustiquaire. Ça gêne beaucoup.
Sandra n'est pas la seule. Monsieur Damien est sous perfusion depuis 4 jours. Alors qu'il a eu des symptômes depuis 2 semaines, il promet cette fois-ci de dormir sous la moustiquaire une fois quitté les lits de l'hôpital. Pourquoi alors la maladie persiste dans la région? Monsieur Lamberto, médecin au centre hospitalier Virunga ici à Goma, pense ceci.
Oui, le paludisme, c'est une réalité dans notre province. Souvent, les cibles sont les femmes enceintes et les enfants de l'âge inférieur à 5 ans. Auprès des femmes enceintes, nous donnons l'éducation sanitaire concernant l'assainissement du milieu et l'usage correct des moustiquaires imprégnés d'insecticides que nous donnons même gratuitement. Et puis, tout faire pour que la chambre soit correctement aérée.
Réduire sensiblement dans les 5 prochaines années les cas et les risques liés au paludisme, et c'est le grand combat que mène la RDC à travers son plan stratégique et de lutte contre le paludisme qui vient d'être élaboré. Docteur Demson Moussondoli coordonne les activités du programme national de lutte contre le paludisme division du Nord Kivu.
Le paludisme reste la première cause des consultations et la première cause de morbidité, donc les décès, les morts aussi dans la province du Nord Kivu. Nous sommes environ dans les 130 000 cas maintenant. Car par rapport aux décès, nous sommes environ 900 cas et donc c'est encore un problème de santé publique. Le gouvernement s'engage dans la prévention, mais il s'engage aussi dans les curatifs avec l'appui de ses partenaires.
Si dans les milieux urbains, l'ignorance et la négligence font encore des victimes du paludisme, les milieux ruraux restent encore les plus touchés. La sensibilisation sur la bonne utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, l'assainissement du milieu ainsi que la prévention pour les femmes enceintes sont là les grands défis qui restent à relever dans la lutte de cette maladie qui remplit encore les lits des hôpitaux ici au Nord Kivu et dont une personne sur 5 est enserrée morte en RDC. Charlie Kasserika depuis Goma pour VOA Afrique.
Et pour terminer au Maroc, le leader de la contestation populaire dans le nord du pays, Nasser Zefzafi, recherché par la justice, a été arrêté aujourd'hui après avoir défié l'État pendant plus de 6 mois. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.